Bienvenue à cette deuxième journée du colloque Alliance et communautés en science-fiction et fantasy. Donc, moi, avec mes collègues, je suis avec Charlotte et Pascal ce matin. On est très heureuse de vous accueillir. Et donc, on poursuit avec un deuxième panel donc, qui s'intitule Communauté mixte. Je vais passer la parole à Élise qui va présider le premier panel. Je vous la présente. Donc, Élise Warren, je m'excuse. Donc, après avoir terminé une maîtrise en études littéraires sur les possibilités de la science-fiction féministe à l'UQAM, Elise Warren entame son doctorat sous la direction de Laurie Saint-Martin, toujours à l'UQAM, dans lequel elle s'intéresse à l'écriture du corps et de la survivance sous une approche écoféministe. Donc, c'est elle qui va diriger le panel. Je te laisse la parole, Elise.
Merci Marion. Donc, je suis vraiment ravie de vous voir tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on va avoir l'occasion d'entendre trois présentations. Donc, en ordre, ça va être une présentation de Sylvain Brem, ensuite de Song Huang, puis après d'Emmanuel Lescouet. Donc, je vais vous les présenter une à la suite de l'autre et aussi vous nommer leur présentation. Puis ensuite, on va avoir la période de questions à la fin. Donc, je vous invite vraiment à prendre en note vos questions au fur et à mesure pour pouvoir les poser à la fin. Donc, si vous me permettez, on va commencer tout de suite. Sylvain, si tu es prêt, je vais te présenter. Donc, Sylvain Brem est professeur au département d'études littéraires de l'UQAM et membre du Centre Figura. Ses recherches portent principalement sur l'enseignement de la littérature et la littérature jeunesse, en particulier la production destinée à un lectorat adolescent. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages consacrés à ces objets de recherche, dont Discours, usages et traces de l'expérience esthétique en contexte scolaire, Formes et enjeux de la transmission dans les figures. Des fictions, pardon, contemporaines pour adolescents et adolescentes, ainsi que fiction historique pour la jeunesse en France et au Québec. Donc, Sylvain Brem, aujourd'hui, va nous présenter sa communication Une double alliance, la dynamique des relations au sein d'une communauté mixte. Donc, je vous laisse la parole.
Merci Élise, merci Charlotte, Marion et Pascal pour ce beau colloque. Je suis ravi en passant à de revoir des visages familiers hein, et puis de faire la connaissance de nouvelles personnes. Donc, merci à vous toutes. Alors, publié au début des années 2000 dans le sillage du cycle de Philip Pullman à la croisée des mondes et des premiers tomes de la saga Harry Potter, la trilogie La quête des Whelan de Pierre Bottero s'est imposée comme une œuvre majeure de la fantasy jeunesse francophone. Bien que foisonnante et portée par de nombreux personnages, l'intrigue est relativement simple. Je vais essayer de la résumer en quelques lignes. Camille est une adolescente surdouée, vivant dans une riche famille adoptive qui ne lui témoigne aucune affection. Elle vit également isolée à l'école et n'a qu'un seul ami, Salim, un garçon facétieux mais totalement dévoué. Camille découvre de manière fortuite sa capacité à faire ce qu'on appelle un pas de côté, c'est-à-dire à se transporter dans un monde alternatif, en l'occurrence le monde de Gwendalavir, et elle découvre par la même occasion son don exceptionnel dans l'art du dessin. Alors, l'art du dessin consiste à agir sur le réel en se projetant dans une dimension parallèle appelée l'imagination, avec un I majuscule. Camille apprend que ses parents l'ont cachée, ainsi que son frère Mathieu, dont elle ignorait l'existence jusqu'alors, donc dans notre monde, au moment où une guerre a éclaté dans le Gwendalivien. Progressivement, une petite troupe hétéroclite s'agrège autour d'elle jusqu'à ce qu'elle parvienne à libérer ses parents, maintenus captifs par leurs ennemis, et à sauver l'empire du Gwendalivien. La trilogie de Bottero soulève plusieurs enjeux intéressants au regard de la question des alliances et des communautés en fantasy, car si elle apparaît comme, je cite, une figure féminine de l'enfant sauveur, Camille, alias Ewilan, surmonte tous les obstacles grâce au soutien constant de plusieurs autres personnages, dont deux jeunes femmes un peu plus âgées qu'elle. Or, comme l'écrit Vivian Berg, que je cite, étant elle-même mouvement, la quête entraîne la fluctuation des identités individuelles et sa trajectoire problématise l'articulation entre liberté et destin en interrogeant la marge d'action de l'individu dans un monde où tout est lié. Fin de citation. De fait, au gré des péripéties, la plupart des personnages définissent ou redéfinissent leur rôle et leur place dans la petite troupe et par extension dans le monde. On peut dès lors s'interroger sur les caractéristiques et les effets de la dynamique relationnelle au sein de la communauté improvisée, élective et surtout mixte formée autour des Whelan. Encore une fois, je dirais Camille ou Eliwan, mais il s'agit bien de la même personne. Pour ce faire, je me propose d'analyser les liens noués entre Camille et les personnages masculins du groupe. Pardon, excusez-moi. Je me propose d'analyser les liens noués entre cette dernière et les deux autres jeunes femmes, puis d'examiner les relations entre ce trio féminin et les personnages masculins du groupe, afin de déterminer en quoi cette double alliance permet dans une certaine mesure de promouvoir une communauté fondée sur un principe de réciprocité et d'égalité, ainsi qu'une redistribution de rôles traditionnellement genrés. Le résumé de l'intrigue que j'ai présenté il y a un instant met au jour la parenté de La Quête des Whelan avec plusieurs romans de fantasy jeunesse appartenant à la catégorie des romans dits d'apprentissage. À l'instar, par exemple, de la saga Harry Potter ou de la trilogie Le Livre des Étoiles, La Quête des Whelan actualise plusieurs motifs caractéristiques du genre, tels la figure de l'orphelin, de l'élève et de ses mentors, de même que la thématique du voyage et de la rencontre. Alors, si Camille n'est pas à proprement parler une orpheline, en faisant un pas de côté vers le monde de Gwendalivir, elle s'affranchit de la tutelle de parents adoptifs qui ne lui ont jamais manifesté d'affection et ne retrouve de toute façon ses parents biologiques qu'à la toute fin de la trilogie. En revanche, durant sa quête, elle est entourée d'individus aux profils variés, dont deux jeunes femmes, Elana, une marchombre, c'est un peu une sorte de ninja là, dans le monde de Gwendalivir, donc Elana qui prend part à la quête de Camille dès le début, et Siam, dont l'apparition dans l'intrigue est beaucoup plus tardive. Alors, bien qu'Elana et plus encore Siam assument un rôle secondaire, hein, ce ne sont pas les héroïnes, donc elles assument un rôle secondaire dans l'intrigue, leur présence n'en est pas moins déterminante. D'une part, en effet, elles se révèlent de farouches combattantes et des alliés sincères. D'autre part, en tant que personnages féminins, elles apportent une contribution décisive au versant plus personnel de la quête de Camille. En effet, comme le souligne Alain-Michel Boyer, que je cite, « Dans ce type de récit, l'aventure est conquête avant tout. On conquête de l'espace, de l'univers et surtout de soi. » Fin de citation. Or, comme l'explique la sociologue de l'adolescence Caroline Moulin, cette quête identitaire à l'adolescence s'opère le plus souvent dans des espaces d'intimité monosexués, que Caroline Moulin nomme des replis homolatiques. Alors, toujours selon Caroline Moulin, que je cite à nouveau, l'intimité homolatique se pose comme espace d'apprentissage d'une continuité identitaire par identification au semblable et par distanciation d'avec les différences générationnelles et sexuées. Fin de citation. Donc, je m'intéresserai à la distanciation d'avec la différence sexuée dans la seconde partie de mon intervention. Pour l'instant, j'aimerais montrer que l'inscription des trois personnages féminins dans un même horizon générationnel est un élément central de la dynamique relationnelle qui s'instaure au cours de l'aventure. L'âge de Camille, en particulier, nous est révélé avec insistance dès l'incipit du premier tome. Je cite, Camille était âgée exactement de 4900 jours, soit un peu plus de 13 ans, la première fois qu'elle effectua un pas de côté. On apprend un peu plus tard que Siam, pour sa part, a 18 ans. Quant à Elana, elle est incontestablement la plus accomplie et la plus expérimentée des trois, notamment parce qu'elle a déjà achevé sa formation de marchombre. Je cite, « Sa propre adolescence lui semblait à des centaines d'années de distance et Camille dégageait une aura de fraîcheur bienfaisante. » Fin de citation. Malgré tout, elle se montre irritée lorsque Camille s'adresse à elle en la vouvoyant. Je cite à nouveau, « S'il te plaît, tutoie-moi, je n'ai que 25 ans, l'âge d'être ta sœur, pas ta grand-mère. » Fin de citation. Alors, plus qu'une manifestation d'agisme ou de coquetterie, l'insistance à se distancier ainsi des générations antérieures exprime selon moi la volonté de maintenir un lien de proximité, de connivence avec l'adolescente. Camille, de son côté, présente déjà les signes d'une maturité précoce. Je cite, la plus insensiblement, on était attiré par l'aura qui se dégageait d'elle et qui était tenue en bride par la partie encore enfantine de son être. Elle pouvait se comporter en gamine et une seconde plus tard montrer une profondeur de caractère étonnante même pour une adulte. Fin de citation. Alors, en ce sens, Elana, Camille et Siam peuvent être considérées comme des jeunes filles, ou peut-être plus des jeunes femmes, en considérant, à la suite de Pierre Péjus, que je cite, que la jeunesse désigne cette période de la vie qui n'est plus l'enfance, mais au cours de laquelle l'être humain n'a pas encore été soumis à l'épreuve de la répétition. Il n'a pas encore conscience de la destructivité du temps et de la pulsion de mort, pouvant ainsi se propulser vers l'avenir avec toute l'énergie que donne cette ignorance. Fin de citation. La complicité unissant les trois jeunes femmes ne repose pas uniquement sur leur commune jeunesse, mais également sur les affinités de leur caractère. La manière dont elles pensent et agissent rompt avec l'idée encore bien prégnante en littérature jeunesse et à ce titre dénoncée par Isabelle Smadja, que je cite. Donc, conception qui veut que la femme soit un être d'intuition plus que de raison ou un être de sensation plus que de réflexion. Fin de citation. Alors, Pierre Bottero s'inscrit résolument en faux contre cette conception stéréotypée et sexiste. Dès l'incipit de la trilogie, Camille est en effet décrite comme une adolescente aux dispositions intellectuelles hors du commun. Son, je cite, « esprit de jeune surdoué », fin de citation, sera d'ailleurs salué par plusieurs personnages masculins et adultes, dont Merwin, pourtant considéré comme un dessinateur mythique aux pouvoirs inégalés. Ce même Merwin se montre impressionné par, je cite, « le raisonnement parfait », fin de citation, de Camille. Ses facultés cognitives exceptionnelles s'accompagnent d'une rare intelligence émotionnelle et d'une vaste érudition. À titre d'exemple, Camille s'intéresse aussi bien à Pythagore qu'à Aristote, qu'elle lit dans le texte, car elle a appris en autodidacte le grec ancien et le latin, je cite, « sans réelle difficulté et avec beaucoup de plaisir ». Fin de citation. Résolument plus tournée vers l'action et même la violence, Elana et Siam sont des combattantes aguerries qui, je cite, « rivalisent d'audace meurtrière ». Fin de citation. De ce point de vue, elles rompent avec un autre stéréotype associant la féminité à la passivité et à la fragilité. Cependant, même un personnage comme Siam, dont l'apparition est tardive dans la trilogie, est présenté une fois en train de, je cite, « lire un épais volume de cuir ». Fin de citation. Par ailleurs, nous verrons plus loin qu'elle sait parfaitement argumenter et convaincre lorsqu'elle souhaite imposer ses opinions. De même, Elana se montre aussi habile dans le maniement des armes que dans celui des mots. Ainsi, lors d'une rencontre avec les Faël, sont une petite créature qui traite les humains de manière complaisante, donc elle répond à la moquerie des Faël en les défiant ouvertement et en se livrant, je cite, un massacre verbal sur un ton paisible, presque jovial. Fin de citation. En outre, en tant que marchande, elle revendique et assume souverainement une totale indépendance, ce qui la rapproche de Camille, elle-même réfractaire à la notion de hiérarchie. Alors, peut-on pour autant considérer que ce trio féminin constitue un entre-soi informel? Selon Caroline Moulin, que je cite, l'identification au père est le fondement de l'espace homolatique. Le semblable, poursuit-elle, devient le miroir d'une image de soi-même. Fin de citation. Alors, toutefois, de la ressemblance à l'identité, il y a un pas que je me garderai de franchir. En effet, Camille, Elena et Siam ont des personnalités et des vécus différents, en particulier parce que Camille vient d'un monde distinct. Et selon moi, ce sont précisément leurs singularités respectives qui vont leur permettre de faire du repli homolatique un espace d'échange et d'apprentissage. La question de la formation, voire en un sens de la transformation des personnages, en particulier de Camille, constitue l'un des enjeux principaux de la trilogie. Cette transformation est rendue explicite notamment par la dualité des noms de l'héroïne. Camille du ciel dans Notre monde et Ewilan Jill Sayan dans Le monde de Gwendalavia. Plus largement, comme je l'ai rappelé au début de mon intervention, les romans de Bottero, au même titre que de nombreuses œuvres destinées à un lectorat adolescent, mettent en scène un processus d'apprentissage. De ce point de vue, la quête d'Ewilan est exemplaire. En effet, les propos de Maître Duhem, c'est l'analyste qui teste les pouvoirs de Camille au début du récit, donc ces propos expriment métaphoriquement que le chemin menant de l'enfance à l'âge adulte est habituellement long et semé d'embûches. Je cite, « Tu possèdes le don dans sa plénitude, c'est incontestable. Mais cela n'implique pas que tu saches t'en servir. Tu es très jeune et il faut d'ordinaire de nombreuses années de travail avant de le maîtriser. » Fin de citation. Camille doit en outre affronter des difficultés supplémentaires car elle doit également renouer avec sa véritable identité, son moi profond, auquel elle n'a plus accès depuis que ses parents l'ont confié au couple du ciel. Or, mis à part Salim, elle ne peut compter sur personne pour mener à bien cette périlleuse entreprise. Donc, Siam et plus encore Elana assument un rôle essentiel dans cette quête en incarnant des normes d'action et de penser que Camille va, je cite Caroline Moulin, la pouvoir intérioriser par réflexivité. Dans le troisième tome de la trilogie, par exemple, Camille s'étonne auprès de Siam du goût de celle-ci pour les activités guerrières. « Tu parles comme Elana », lui déclare-t-elle, avant de mentionner que pour sa part, elle ne perçoit pas l'utilité de posséder et d'utiliser des armes. En guise de réponse, Siam l'amène à faire preuve d'empathie en lui demandant comment elle se sentirait sans la possibilité d'exercer son art du dessin. Cette expérience du décentrement, du retour sur soi après un détour par la perspective de l'autre, conduit aussitôt Camille à regretter ses paroles. Or, loin de créer un malaise, ce bref échange renforce au contraire l'entente entre les deux jeunes filles. Je cite, « Camille se sentit très proche d'elle. D'un accord tacite, elles talonnèrent leur monture, le vent frais de la course fouetta bientôt leur visage. » Fin de citation. Quant à la relation avec Elana, elle s'apparente à un lien de sororité qui illustre de manière encore plus explicite la complicité entre les personnages féminins et la réciprocité de leurs échanges. La marche ombre offre notamment à Camille un poignard qu'elle lui présente comme, je cite, « un cadeau de grande sœur ». Un peu plus tard, l'adolescente vient en aide à son aînée, aux prises avec un ogre. Grâce à ses talents de dessinatrice, Camille fait apparaître justement un poignard qui permet à Elana de terrasser in extremis son ennemi. Camille lui déclare alors, je cite, « Cette arme est à toi, c'est le cadeau d'une sœur ». De même, peu de temps après avoir intégré la troupe, Elana tient tête à Edwin, qui incarne pourtant le modèle d'homme et de soldat, je cite, « qui a l'habitude d'être obéi ». Fin de citation. En remettant ainsi en question une figure d'autorité, de surcroît adulte et masculine, elle montre implicitement à Camille qu'il est toujours possible d'ouvrir une brèche dans l'ordre établi. L'effet sur l'adolescente est immédiat, je cite, « la réponse avait été proférée d'une voix calme, légèrement teintée de moquerie. Camille décida que cette jeune femme lui plaisait. » Fin de citation. Et à la page suivante, Camille agit par mimétisme en envoyant à son tour une pique amicale à Elana. La réaction exprimée alors par la marche ombre laisse entendre que la leçon a bien été apprise. Je cite, « Voilà longtemps que je ne m'étais pas fait moucher d'aussi belle façon, approuva-t-elle ?» Fin de citation. Cette marque d'assentiment ne scelle pas seulement la naissance d'une estime mutuelle. En tant que grande sœur symbolique, Elana joue également un rôle de mentor. À ce titre, son approbation signale que Camille est désormais, elle aussi, potentiellement capable d'affronter ceux qui se dresseront sur son chemin. Alors justement, dans son essai « Le temps des filles », Isabelle Smadja consacre un chapitre à la figure de l'enfant sauveur que l'on retrouve dans plusieurs œuvres de fantasy. Comparant à cet égard le choix de Rowling et de Pullman dans les séries Harry Potter et La Croisée des Mondes, Smadja déclare que, je cite, « choisir une fille comme un personnage principal est d'autant plus novateur que cette particularité situe l'ouvrage de Philip Pullman en rupture non pas tant avec la littérature qu'avec toutes les mythologies qui se construisent autour de l'image d'un enfant sauveur envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. » Fin de citation. Alors que dire alors de la trilogie romanesque de Botero, dont l'héroïne se nomme Camille Duciel ? Botero va même plus loin que Pullman, puisque, comme nous venons de le voir, il entoure Camille de deux autres personnages féminins dont le rôle est essentiel. Toutefois, l'intérêt de la quête des Willa, du moins dans ma perspective, réside aussi dans l'alliance qui se noue avec des personnages masculins. En effet, si les puissants liens d'amitié unissant les trois jeunes femmes s'avèrent indispensables à la réussite de la quête, le rôle des hommes de la troupe l'est tout autant. Toutefois, leur présence modifie la dynamique relationnelle au sein de ce groupe mixte. Or, bien que Botero s'attache à déconstruire une certaine conception de la féminité, l'analyse des rapports hommes-femmes au sein de cette communauté élargie met au jour des paradoxes et des ambiguïtés que je vais essayer de mettre au jour devant vous. Alors, ainsi, les descriptions des corps des personnages masculins et féminins semblent, de prime abord, conférer aux hommes la tâche de se distinguer par la force et aux femmes celle de briller par leur beauté. Même si l'embonpoint de Bjorn est souligné à plusieurs reprises et que Maniel est, donc ce sont deux guerriers, Bjorn et Maniel, et que Maniel est ridiculisé par Elana lors d'une joute amicale, ils sont comparés comme Edwin à, je cite, des colosses. Edwin est même l'archétype du super-héros popularisé par des films comme Rambo ou Conan le Barbare. Je cite, c'est un homme assez grand, aux cheveux courts coupés en brosse, déjà presque blanc, bien que Camille ne lui donnât pas plus de 40 ans. Il était vêtu d'une tenue foncée de cuir brut qui mettait en valeur la puissance de ses épaules. Son visage tout en méplat et sa peau mate faisaient ressortir le gris de son regard. Fin de citation. Quant à Maniel, je cite à nouveau, il mesure 2 mètres et approche les 150 kilos. Fin de citation. Les trois jeunes femmes, quant à elles, incarnent ce que Pierre Péjou nomme, je cite, la beauté du féminin jeune, faite de fraîcheur et d'éclat. Cette beauté est le nom donné au rayonnement du désirable. Fin de citation. Alors, de fait, Camille, Elana et Siam se voient dotées d'un capital inné de séduction. Le cas de Camille est intéressant car en raison de son âge, elle a 13 ans, je vous le rappelle, 13-14 ans, l'évocation de sa beauté est soulignée par plusieurs références à celle de sa mère, de manière indirecte. Lorsqu'elle rencontre l'empereur, par exemple, ce dernier se contente de la regarder avant de lui dire « Tu es le portrait d'Elicia, quiconque a vu ta mère ne peut l'oublier. » Fin de citation. De son côté, Elana s'amuse de l'émoi qu'elle provoque chez Artis. Artis, c'est un membre de la guilde des rêveurs, donc une espèce de moine médecin. Donc, Elana s'amuse de l'émoi qu'elle provoque chez Artis. Je cite, « Elle lui avait parlé comme d'habitude en le regardant droit dans les yeux et Artis, comme d'habitude, sans pourpoi. Il s'éloigna précipitamment et Elana sourit. Elle était toujours stupéfaite de l'effet d'un simple regard sur certains hommes. » Fin de citation. Alors, ces deux exemples révèlent une première ambiguïté. Certes, ils montrent que la valorisation du corps féminin résulte d'une focalisation sur l'une des jeunes femmes par l'entremise d'une focalisation par un personnage masculin, puisque c'est toujours à travers le regard d'un homme qu'est soulignée la beauté des femmes. De surcroît, il n'est jamais fait mention d'une quelconque préoccupation des trois jeunes femmes à l'égard de leur apparence physique. Cependant, la réaction des personnages masculins illustre tout autant ce qu'observe Christine Détré dans la littérature adolescente d'aujourd'hui, à savoir que même dans des œuvres récentes, plus susceptibles a priori de renouveler les modèles proposés aux jeunes lectorats, je cite Détré, se cachent encore des jeunes filles très gracieuses et très jolies, finalement, entre guillemets, féminines, comme si là était leur véritable, à nouveau guillemets, nature, dont on devine vite qu'elle va finir par dominer. Fin de citation. Par ailleurs, dans le dernier tome de la trilogie, la jalousie dont fait momentanément preuve Elana à l'égard de Siam, avant d'apprendre que cette dernière est la sœur d'Edwin, témoigne, comme l'écrit Pierre Péjou, je cite, « du destin du féminin jeune, il est forcément éphémère ». Fin de citation. À l'instinct du regard de la marâtre de Blanche-Neige, qui le premier avait remarqué tragiquement que la petite fille de son époux était devenue une jeune fille beaucoup plus belle et donc plus désirable qu'elle, celui d'Elana faisant spontanément de Siam une rivale, atteste les propos de Sandwa Lee Barty, que je traduis pour vous épargner mon anglais atroce. Dans le régime de l'hétérosexualité institutionnalisée, la femme doit se faire objet et proie pour l'homme. Elle vit son corps vu par un autre avec un A majuscule, anonyme et patriarcal. Fin de citation. Il me reste 3 pages, une par minute. Cette asymétrie dans le traitement des personnages masculins et féminins se manifeste également dans ce que j'appelle un brouillage partiel des genres. Comme je l'ai mentionné, Edwin, Björn et Maniel incarnent, parfois jusqu'à la caricature, la figure du guerrier fort et valeureux, même si Björn en particulier tient parfois autant du bouffon que du chevalier. De même, Maître Duhem, Salim et Mathieu offrent des modèles différents de la masculinité. Cependant, Duhem est un vieillard. Quant à Salim, son cas est particulier puisqu'il se métamorphose accidentellement en loup, l'animal, et se révèle finalement féroce au combat sous les traits de cet animal. Quant à Mathieu, il présente un tempérament d'artiste sensible et pacifique, ce qui ne l'empêche toutefois pas d'être initié au maniement des armes et de finalement livrer bataille comme les autres hommes. En ce sens, tous les personnages masculins jouent peu ou prou le rôle social qui semble attendu d'eux. Elana et Siam, en revanche, remettent en question la nette séparation des genres en arborant des attributs indiciels censés constituer des marqueurs de la masculinité. La description d'Elana à ce propos est particulièrement évocatrice. Je cite, « C'était une jeune femme d'une vingtaine d'années, elle avait la pommade, de longs cheveux noirs brillants tirés en arrière et tressés. Ses vêtements de cuir sombre, semblables à ceux d'Edwin, mettaient en valeur sa silhouette élancée. » La rencontre avec Siam fait également ressortir ce qui, même aux yeux de Camille, semble transgressif. Je cite, « Elle écarquilla les yeux en découvrant la tresse blonde qui battait dans son dos et les traits harmonieux de son visage. Le farouche cavalier était une femme. » Fin de citation. Camille n'est d'ailleurs pas la seule surprise par la capacité de Siam à déjouer les normes et les codes. Lorsqu'il la rencontre, Mathieu lui laisse entendre qu'il vient enfin de trouver, je cite, « la beauté, ou plutôt la grâce, ou la perfection, la féminité, tout ça à la fois sans doute. » Fin de citation. Pourtant, un peu plus tard, l'ardeur au combat de cette femme fatale, dans tous les sens du terme, déconcerte profondément le jeune homme. Je cite, « Matthieu se demandait si sa grâce n'était pas un piège destiné à attirer les imprudents près du fil de sa lame, si elle n'était pas un fauve plutôt qu'une femme. » Comme si elle avait perçu ses pensées, Siam se tourna sur sa selle et plongea ses yeux dans les siens, ce qui, en une fraction de seconde, fit fondre ses craintes et ses doutes. Fin de citation. Cette scène est particulièrement intéressante. D'une part, elle invite à se demander si, comme le suggère Christine Détré, pour échapper au rôle qui leur est habituellement imparti, la seule issue pour les femmes semble finalement d'épouser le modèle masculin et de devenir plus guerrière, plus féroce, plus violente que les hommes. Fin de citation. D'autre part, elle montre une fois de plus que elle montre une fois de plus les injonctions contenues dans le regard masculin, oscillant entre le désir et l'effroi, et signalant par là même le risque de l'ensauvagement qui guette toute femme s'aventurant au-delà des normes sociales. Paradoxalement, bien que les deux combattantes s'illustrent plus d'une fois lors d'affrontements épiques, il leur faut régulièrement défendre leurs valeurs aux yeux de leurs camarades masculins. Je donnerai juste une ou deux citations. Manuel, par exemple, avoue candidement à Elana qu'il, je cite, « il ne savait pas qu'une femme pouvait tuer un ogre à coups de couteau ». Pour sa part, le père de Siam, seigneur du royaume des Marches du Nord, n'hésite pas à rabrouer sa fille lorsqu'elle exprime son désir d'accompagner Camille et le reste de la troupe. En ce sens, bien qu'on reconnaisse leurs compétences et leur utilité au sein du groupe, Elana et Siam voient à plusieurs reprises et de manière plus ou moins implicite leur légitimité remise en question. Quant à Camille, elle ne cesse de se faire rappeler par différents personnages tout au long de sa quête que, je cite, « si elle veut réussir, son frère devra joindre ses efforts aussi. » Face à cette double contrainte, être vaillante au combat pour prouver son utilité, mais ne pas l'être trop pour demeurer désirable, de quelle marge de manœuvre les jeunes femmes disposent-elles ? Alors, j'ai évoqué plus haut un brouillard partiel des normes genrées, incarné notamment dans l'attitude et la parure vestimentaire d'Elana. Ce personnage singulier participe également d'un brouillage des genres littéraires, je parle d'Elana, en apparaissant dans le péritexte du dernier tome de la trilogie, dans une pseudo-entrevue insérée au sein d'un making-of. Alors, interrogée sur l'idylle qu'elle noue avec Edwin, Camille en dénonce aussitôt le caractère stéréotypé et s'amuse précisément des clichés présent dans le texte. Je les cite. La quête des Whelan est un roman, un simple roman. L'auteur se targue de mettre en place des situations insolites, mais je vous assure que l'histoire d'amour en filigrane entre le chef charismatique et la rebelle hyper féminine est totalement éculée. Fin de citation. De manière moins spectaculaire, Camille, Elana et Siam ne se laissent guère impressionner par leurs compagnons. Au contraire, non seulement elles font entendre leur voix, mais la plupart du temps, elles finissent par imposer leur opinion ou leur volonté. Siam, par exemple, dans l'exemple que j'évoquais tantôt, sort doublement victorieuse de la confrontation avec son père. Elle obtient, donc non seulement elle obtient gain de cause, mais elle y parvient en, je cite, en pesant ses mots face à son père qui, lui, s'est laissé emporter. Donc on retrouve bien l'opposition entre raison et émotion, mais dans un rapport inversé. Quant à Camille et Elana, elles n'hésitent pas à remettre en cause l'organisation verticale d'un pouvoir détenu par des hommes, notamment l'empereur et Edwin, qui le représente. Donc la première, en imposant que tous ceux et celles qui le souhaitent puissent continuer à la suivre, la seconde en exigeant, je cite, « d'étaler sur la table, en toute égalité, la suite de l'aventure ». Ce faisant, elles obtiennent qu'Edwin, je cite, « accepte d'écouter les arguments des autres membres de la troupe et surtout, elles permettent l'émergence d'une communauté régie par un principe de solidarité et de réciprocité entre tous ceux et celles qui la composent, par le là les différences de genre ou d'âge ». Je conclue. Merci pour votre patience. Alors, comme l'ont signalé plusieurs spécialistes des genres de l'imaginaire, dont William Blanc et Anne Besson, la fantasy s'est souvent vue reprocher son caractère intrinsèquement réactionnaire. Pourtant, comme le montre Besson, en évoquant des mondes imaginaires, la fantasy nous parle bel et bien de notre monde. À cet égard, le fait que les habitants de Gwendalavir expliquent à Camille que leur monde est peuplé de descendants d'humains qui ont fait un pas de côté plusieurs siècles auparavant, et que Camille elle-même fasse plusieurs allers-retours entre les deux mondes, rend d'autant plus pertinente l'analyse des rapports entre les différents membres de la joyeuse bande formée autour de l'héroïne de la quête des Whelan. Alors, cette œuvre se distingue à tout le moins dans le paysage de la fantasy jeunesse francophone par la volonté de Bottero de mettre à l'avant-plan une héroïne accompagnée d'une diversité de personnages dotés tous d'une réelle consistance. 20 ans après sa parution, cependant, force est néanmoins de reconnaître que Si elle parvient efficacement à mettre en évidence la construction sociale du féminin, elle offre parfois une vision paradoxale, ambiguë des rapports hommes-femmes. De même, en dépit des déclarations de Siam et d'Elana, notamment dans l'entrevue fictive de cette dernière, la trilogie propose une conception assez conformiste de ces rapports, d'une part parce que tous les personnages trouvent un partenaire amoureux ou aspirent à en trouver un, et d'autre part parce que ce rêve de conjugalité s'inscrit dans un cadre strictement hétérosexuel. Dernier paragraphe, Anne Besson conclut son essai « Les pouvoirs de l'enchantement » en soulignant la pertinence des fictions de l'imaginaire qui sont, selon elle, porteuses, je cite, « d'un enchantement nécessaire, de la possibilité pour chacun d'imaginer mieux, de garder ouvert un espace pour rêver autre chose, un monde meilleur, un avenir différent ». Fin de citation. En ce sens, la quête des Whelan offre effectivement une réponse au désenchantement de notre monde polarisé et fragmenté par l'hyper-individualisme en proposant un modèle de communauté élective dans laquelle chacun est au service de tous et réciproquement. Merci.
Merci beaucoup. Merci Sylvain. Donc, on va tout de suite passer à la prochaine présentation de Song Huang, qui est doctorante en première année en littérature comparée au sein de Sorbonne Université sous la direction de M. Bernard Franco. Son projet de recherche a pour objet la féminité exotique en guillemets. dans la littérature et la danse classique orientaliste du 19e. Elle a fait une communication intitulée « Point cardinal et les danseurs de l'aube, le corps hybride, objet de rébellion » pour la journée d'études de Festival Transversal 2021 « Trans en danse » organisée par l'Université Rennes 2. Et Song Huang va nous présenter sa communication « L'alliance des individus dans la série Fantasy comme représentation des groupes minoritaires » une lecture politique de l'œuvre de Leigh Bardugo. Donc, je vous laisse la parole.
Je vais commencer. Les romans des jeunes adultes d'aujourd'hui sont devenus des champs de recherche et d'expérimentation qui évoquent des enjeux politiques pour éduquer la nouvelle génération tout en gardant la dimension lyrique. Dans, par exemple, The Hate U Give, d'Angie Thomas, un mouvement politique contre la violence policière contre les personnes de couleur est raconté à travers le point de vue d'une adolescente innocente qui est elle-même une victime. Dans The Poet X d'Elisabeth Acevedo, une adolescente vivant à Harlem raconte les obstacles d'intégration sociale de sa famille avec la poésie slam. Sans doute, l'auteur que l'on évoque aujourd'hui, Leigh Bardugo, est aussi un des précurseurs de ce courant. Cependant, contrairement aux écrivains des romans d'adolescents plus ou moins engagés auparavant, elle emploie la forme de fantaisie qui fait résonance avec le monde contemporain. La duologie Six of Crows de Leigh Bardugo est un récit pour les jeunes adultes publié en 2015. Cette duologie s'inscrit dans l'univers de Grishaverse, où la première trilogie Grisha et la duologie King of Scars prennent place aussi. La première tome de cette duologie, Six of Crows, raconte l'histoire d'un cambriolage organisé par Cass Breaker, un prodige du crime. Motivé par le prix de riche marchand Jean Van Eyck, le gang de Case Breaker comprend 5 autres personnages qui possèdent tous une spécialité. L'espionne Inej Kafa, la Krisha Kaporalki Nina Zenik, ancien soldat et prisonnier Mathias Helva, le tireur Jesper Fahy et le fils de Van Eyck Willem. À la fin du récit, malgré le succès de la mission impossible, le gang se retrouve dans le piège que Jean Van Eyck a construit. Dans la seconde tome Crooked Kingdom, avec la ruse et le courage, le gang a achevé la vengeance contre Van Eyck, P.K. Rowling et l'injustice à Ketterdam en général. L'action du gang n'a pas seulement changé leur propre itinéraire de vie, mais elle a aussi bouleversé la ville corrompue de Ketterdam. Le récit met en scène des personnages marginalisés par l'hiérarchie sociale et raconte une histoire de rébellion. Au début, les personnages sont motivés par l'intérêt financier de la mission et ils veulent simplement acquérir une condition de vie plus aisée. Néanmoins, avec l'évolution de leur mentalité, quand la corruption de la ville et la malice de la société de Grishaverse sont de plus en plus dévoilées, la révolte devient politique. Les résonances avec l'actualité du monde contemporain deviennent graduellement plus percevables et le roman devient plus sophistiqué qu'une simple fantaisie de jeunes adultes. Au lieu d'illustrer une aventure fantastique comme la plupart des romans du même genre, le récit raconte plutôt la trajectoire d'un groupe d'adolescents que chacun représente une communauté marginalisée, lutte contre la discrimination et l'injustice du système social. De cette façon, en considérant que cette idéologie est destinée aux jeunes lecteurs, elle possède des valeurs éducatives très apparentes, car elle suscite des réflexions sur notre société. D'une perspective féministe, les deux protagonistes féminins du roman Inej et Nina sont des modèles d'anti-héros traditionnels, d'anti-héroïnes traditionnelles. En étant tous les deux des anciennes prostituées, elles sont l'opposition des princesses ou des demoiselles en détresse qui apparaissent très souvent dans la littérature conventionnelle, et elles forment une nouvelle image d'héroïne soldat ou guerrière. Nous pouvons poser la question suivante. Comment Bardugo reflète les problématiques contemporaines dans son récit fantastique pour susciter les révoltes non seulement contre la construction sociale, mais aussi pour la représentation littéraire en général? Dans un premier temps, nous analyserons les allusions géographiques et historiques dans le récit qui rappellent le lecteur des événements réels. Dans un deuxième temps, nous étudierons la construction des personnages féminines anti-héroïnes dans le roman. Dans un dernier temps, nous nous attarderons sur l'aspect psychoanalytique de l'œuvre qui fonde l'amitié et l'alliance sur le concept de trauma. Les allusions au monde réel sont principalement manifestées par les toponymes et ainsi les langages fabriqués de chaque pays imaginé. Selon la carte du monde Krisha, le continent est divisé par les trois grands pays, Fjerda, Ravka et Shuham. Fjerda fait explicitement allusion à l'Allemagne ou les pays germanophones, grosso modo par le langage du peuple. Guten Morgen signifie bonjour en Fjerda et cela fait allusion à l'expression allemande Guten Morgen. La prononciation de Truskeller fait vaguement allusion à la phonétique des langues germaniques qui multiplient les consonnes. De plus, les caractéristiques physiques des Fjerdas, notamment les cheveux blonds ou blancs, la peau blanche, la grande taille et le corps musclé construisent une image de caucasien par excellence. Le pays chou fait explicitement allusion au pays d'Asie par son nom qui ressemble à un mot chinois, et le nom des personnages issus de ce pays, Bo Yul Payul et Kue Yul Payul, font écho à la prononciation des noms coréens. La caractéristique physique du peuple chou est très percevable. Comme la trilogie de Krisha avait souligné, Alina subit des discriminations délicates à cause de sa racine chou. Aussi, le peuple chou est marqué par les cheveux noirs, qui est un trait que l'on distribue beaucoup aux Asiatiques. Les habitants des autres pays caractérisent le peuple chou comme autres, comme ils sont physiquement et culturellement très différents. Et les chou qui apparaissent seulement occasionnellement dans le roman subissent des rejets subtils. Même si la référence n'est pas très explicite, Ravka fait vaguement allusion à la Russie. Le langage Ravka, par exemple, Rebetva Volshia, qui veut dire fille du peuple, à la phonétique, ressemble à la phonétique russe qui termine souvent avec la voyelle A. La relation et surtout la tension entre ces trois grands pays est plus intéressante à étudier. Fjerda est le pays qui a le plus de pouvoir et qui ne cesse pas sa tentative d'expansion. Le récit est démarré par la découverte et l'utilisation de Jurtaparem à Fjerda qui peut menacer la vie des Krisha et ainsi la sécurité de tous les habitants dans ce monde. Shu est un pays lointain et mystérieux qui obtient graduellement son pouvoir par des pratiques qui ressemblent à magie. Dans Crooked Kingdom, le camp a trouvé des soldats Shu entièrement qui ancrent l'acier dans leur corps humain et deviennent invincibles. Le pays Shu surprend d'autres pays par son évolution de technique militaire et il entre en compétition avec Fjerda. En revanche, même si Ravka est le pays qui possède une armée de Krisha, à cause de la guerre civile et plusieurs événements politiques, il décline et perd sa place dans la concurrence. Les deux autres pays sont tous au courant que la situation économique de Ravka est difficile. Ils ont tous l'ambition d'invader Ravka pour obtenir le trésor de ce pays, c'est-à-dire le soldat Krisha. Nous pouvons naïvement interpréter la tension de pouvoir que ce roman expose, comme la relation internationale d'aujourd'hui. L'Union européenne, les États-Unis, la Chine et la Russie sont aussi dans un conflit complexe, et la position de chaque pays dans Krishaverse peut être représentante d'une unité politique dans la réalité. Les deux autres pays qui prennent moins de place dans cette histoire de guerre, Kedadam et Novi Zem, possèdent aussi des caractéristiques remarquables. Kedadam est une petite île sur mer où la corruption politique et économique imprègne dans chaque aspect de la vie. Novi Zem est le pays des agriculteurs qui travaillent et exportent des produits partout dans le monde. Il est improbable que ces deux pays reflètent discrètement un pays réel, mais leur système peut faire allusion aux événements récents que nous avons vécus. L'allusion politique la plus remarquable dans le récit est la tension entre les Triskelers et les Krisha. Les Krisha réfèrent aux humains possédant des super-pouvoirs comme Heartrender, Fabricator, Tidesmaker, etc. Et les Triskelers sont un groupe de soldats éduqués et formés pour oppresser le pouvoir des Krisha. La haine et le dédain des Triskelers contre les Krisha est le résultat d'un système éducatif très accompli qui peut reformer la morale d'un individu. Ce sentiment hostile n'est point reposé sur les actions, mais plutôt sur l'identité. Le discours des Triskelers ne s'appuie sur aucun fait historique, mais ils sont des récits artificiels qui mettent en relief la nature maligne des Krisha. En outre, ce sentiment de haine est accompagné par la redoute pour le super pouvoir des Krisha, qui augmente leur hostilité par la dimension d'inconnu. De toute façon, les Krisha sont construits comme un autre complet, un monstre cruel qui va ravager tous les êtres humains seulement par son existence. Le point de vue des Triskelers est explicité par les monologues intérieurs de Mathias qui se rend compte de l'irrationalité de son éducation après avoir tombé amoureux d'une Krisha. Dans une dispute entre ce couple, Lina révèle la stupidité de cette pensée militante. Then why has a Krisha never been found innocent at the end of your supposedly fair trials? Because our crime is existing, our crime is what we are. Mathias went quiet, and when he spoke, he was caught between shame for what he was about to say and the need to speak the words he'd been raised on, the words that still rang true for him. Nina, has it ever occurred to you that maybe you weren't meant to exist? Nina's eyes glinted green fire. She took a step toward him, and he could feel the rage radiating off her. Maybe you are the ones who shouldn't exist, however weak and soft, with your short lives and your sad little prejudices. You worship wood spirits and ice spirits who can't be bothered to show themselves, but you see real power and you can't wait to stamp it out. La pensée des Triskelers et la violence qu'ils exercent sur les Krisha fait allusion au nazisme qui invente un discours pour hiérarchiser les races différentes et donner raison à l'exécution des minorités. Comme le système éducatif des Triskelers, la fondation du nazisme se repose aussi sur l'éducation des jeunes qui implantent des haines et des hostilités dans leur esprit. Pendant le trajet de Six of Crows, Mathias est toujours en conflit avec soi-même. En tant qu'un soldat fidèle, il croit sincèrement aux valeurs que son pays lui a enseignées, mais l'apparition de Nina dans sa vie a prouvé que toutes ses instructions sont fautives. Il est étonné par la bienveillance, l'empathie et la fidélité de Nina qui contredit tous ses préjugés. Outre que les événements historiques du nazisme, la réflexion de Triskelers peut aussi faire allusion au racisme d'aujourd'hui qui est basé sur la redoute de l'inconnu et l'hostilité irrationnelle envers l'autre. Le dénouement du récit est plus ou moins ironique car après avoir tué l'ancienne version Triskelers de soi-même, Mathias est tué par une jeune Triskeler qui est une copie de sa jeunesse. Cette fin satirique signifie qu'à travers ses expériences, Mathias est complètement transformé à une autre personne qui rejette les préjugés et les idées reçues. Cela expose aussi une perspective optimiste que les pensées racistes fondées sur discours artificiels vont disparaître quand elles sont confrontées par la réalité et il est probable que nous allons établir un monde d'égalité. Inej et Nina sont deux protagonistes féminins dans le roman et elles sont issues des origines très différentes. Inej est une fille soulie qui est kidnappée de son parent en étant vendue dans une maison de prostitution à Kittedam. Le trafic d'être humain a bouleversé sa vie d'acrobate professionnelle qui avait une famille bienveillante et heureuse et elle était obligée de subir la vie misérable d'une prostituée qui est traitée comme une marchandise. L'entraînement d'acrobatie lui a permis d'acquérir des compétences sportives extraordinaires et elle est enfin achetée et sauvée par Catbreaker en devenant une espionne par excellence. Même si Bardugo a souligné ses techniques exceptionnelles de combat et d'escalade, ce sont tous des résultats d'entraînement et de pratique. Contrairement aux héroïnes traditionnelles dans les récits de fantasy qui sont marquées par leur talent ou leur identité exceptionnelle, comme Alina dans Grisha Trilogy, Inej est un personnage ordinaire qui a subi des injustices du monde. Elle est la représentante des filles issues de classes populaires qui est la victime de multiples violences et qui se transforme à cause de ses malheurs pour devenir une figure de pouvoir. Dans Crooked Kingdom, pendant le dernier combat entre Inej et son ombre, Dunyasha, une mercenaire élevée dans la cour et qui se croit être membre d'une famille royale, Inej s'est rendu compte de l'opposition fondamentale entre elle et son opposant. Inej almost felt sorry for her. Dunyasha really believed she was the hair, and maybe she was, but wasn't that what every girl dreamed? That she'd wake and find herself a princess, or blessed with magical powers and a grand destiny. Maybe there were people who lived those lives, maybe this girl was one of them, but what about the rest of us? What about the nobodies and the nothings, the invisible girls? We learn to hold our heads as if we were crowns. We learned to ring music from the ordinary. That was how you survived when you weren't chosen, when there was no royal blood in your veins, when the world owed you nothing, you demanded something of it anyway. Dans ce passage, le critique dénonce envers l'ignorance de la société dans Grishaverse, mais aussi étendre au genre de la littérature de fantasy en général. Dans ses œuvres, les protagonistes féminins qui sont nobodies et nothing. Things qui représentent la majorité du monde ne sont jamais mises en scène et les gens ordinaires deviennent également invisibles dans la réalité et dans le roman de fantasy. Cependant, malgré cette ignorance, il neige témoigne que les filles qui ne sont pas nées avec les talents d'héroïne peuvent aussi acquérir des capacités pour vaincre la domination et l'oppression qui sont exercées sur elles. Inej's foot caused the edge of one of the metal scrolls, and then she understood. She didn't have her opponent's training or education or fine white clothes. She would never be as useless as she could not wish to be, but she knew the city inside out. It was the source of her suffering and the proving ground for her strength. Like it or not, hidden them brutal. Dirty, hopeless Killerdam had become her home, and she would defend it. She knew its rooftops the way she knew the squeaky stairs of the slat, the way she knew the cobblestones and alleys of the stave. She knew every inch of the city like a map of her heart. À la fin, Inej a vaincu son ombre par sa familiarité avec la ville de Killerdam. Elle guide Dunyasha sur une brique mal installée sur le toit et se piège à bien emprisonner le mercenaire qui n'est point expert de cette ville de crime. Cette scène de combat à la fin du récit met en relief l'opposition de deux systèmes d'éducation, celui dans la cour et celui sur la rue. Même si la formation dans la cour est conventionnellement plus valorisée, les entraînements dans la rue sont aussi un trésor ou une fortune. Même si elle n'a jamais eu l'occasion d'apprendre proprement le combat, Kedadam forme et élève Inej et lui transforme à la guerrière la plus habile du monde. Le dénouement de cet épisode manifeste le pouvoir du peuple qui s'agrandit dans la rue qui sont des probables vainqueurs de l'oppression des classes élevées. D'autre part, les prostituées qui sont très rarement mises en scène dans des récits destinés aux jeunes adultes sont devenues le cœur du roman chez Bardugo. Les deux personnages principaux, Inej et Nina, ont tous expérience de travailler comme prostituées. Néanmoins, contrairement à l'idée reçue que les prostituées sont des individus de petite mœurs, elles sont désignées comme des victimes de l'émancipation et de violence à cette idéologie. L'industrie de prostitution témoigne la brutalité de la société qui matérialise le corps des femmes en les transformant en simples marchandises. Ce système construit pour le plaisir des hommes qui dégrade les femmes en jouets va blesser les employés mentalement et physiquement. Dans le retour en arrière d'Inej, la maison de prostitution The Menagerie est décrite comme une prison ou un endroit de torture. The menagerie had been built to look like a tiered cage, its first two stories left open, but for the widely spaced golden bars, it was also known as the House of Exotics. If you had a taste for sugar or a certain giant, a redhead from the Wandering Isle, a dark-skinned Zemini, the menagerie was your destination. Each girl was known by her animal name, leopard, mare, fox, rave, ermine, fawn, snake. Soothsayers wore the jackal mask when they plead their trade and looked into a person's fate. But what man would want to bet a jackal? So the Sully girl and the menagerie always talked to Sully girl, who was known as the lynx. Clients didn't come looking for the girls themselves, just brown sooty skin, the fire of caddish gear, the tooth of golden shrew eyes, the animals remained the same, though the girls came and went. Au lieu de critiquer la morale dégradée des prostituées comme dans la tradition de la littérature, la prostitution est employée comme un exemple pour illustrer l'émancipation des femmes dans la société patriarcale. De plus, la perspective d'exotisme et d'orientalisme est aussi exposée dans cet extrait. The menagerie a aussi le pseudonyme de House of Exotics, qui signifie que ses employés sont des filles étrangères issues du trafic des êtres humains. Les clients de cette maison sont des hommes qui cherchent à satisfaire leur fantaisie des pays lointains. De plus, les femmes issues des pays orientaux, c'est-à-dire les filles non afghanes, sont associées à la nature de soumission. Les prostituées ne sont pas traitées comme des êtres humains et ne possédant aucun droit. Elles sont des jouets avec certaines caractéristiques physiques que les clients cherchent. Pour matérialiser ces filles, elles ne sont même pas permises d'utiliser un prénom d'humain et elles sont désignées comme des animaux qui sont inférieurs que les êtres humains. La prostitution n'est pas le résultat de choix personnels des femmes, mais le produit d'oppression des femmes et d'orientalisme. Ce qui est plus ironique, c'est que le monstre de cette maison n'est point le client, mais Tante Alien, qui est une femme profitant de l'inégalité des genres. La mise en scène de prostitution dans un récit de jeune adulte est devenue un point d'articulation des enjeux sociaux autour du féminisme, et cette pratique littéraire peut simultanément surprendre et éduquer le jeune lecteur. Le point commun de tous les membres du camp est le trauma vécu, qui a perturbé toute leur vie. Même si la cause de ce trauma n'est pas toujours explicitée dans les dialogues, ce sentiment commun leur aide à développer le sens de communauté et d'amitié. Le camp est un groupe accueillant des individus issus de plusieurs groupes minoritaires. Il inclut des personnes handicapées, les LGBTQ+, des personnes de couleur, etc. Dans cette collectivité, les individus partagent le sentiment identique, qui est le trajet de la société qui leur ont sévèrement marqué et blessé. Les épisodes traumatisants reviennent toujours dans l'esprit de ces personnages et ils se comprennent par cette vulnérabilité commune. Dans cette duologie, Partogo explicite graduellement la raison de ces traumas par des retours en arrière successifs. C'est à la fin de Six of Crows que le lecteur rend compte que Willan est une personne handicapée de dyslexia. Il dédain de son père envers sa maladie qui construit son trauma et ce qui lui conduit à chercher refuge dans le gant. Le roman possède aussi une dimension psychanalytique, comme il pénètre souvent dans l'esprit du personnage et expose ses pensées par des longs monologues intérieurs. Le lecteur peut remarquer qu'il y a toujours un décalage entre l'apparence déterminée du personnage et leur vulnérabilité mentale. Inej Klimt's The Peacock Feathers in the Parlor. À Gostidon, je ne vais pas tous lire, mais vous pouvez le lire de mon diaporama. La mémoire traumatisante d'Inej est déclenchée par la vue, ou juste une aperçue de l'endroit où elle a travaillé. Son angoisse s'élève subitement sans aucune raison, et elle replonge dans les épisodes de maltraitance malgré le fait qu'elle n'est plus en danger. La maison de prostitution est comme une ombre qui la hante toujours, et elle ne peut jamais échapper de cette mémoire de honte et de douleur. De plus, le héros de ce roman, Cass, est aussi hanté par la mémoire associée à la mort de son frère. Même s'il explicite très rarement sa vulnérabilité, il niche sans naturellement cette connexion avec lui en développant des sentiments intimes entre eux. Comme cet extrait avait souligné, la touche est ce qui déclenche le trauma de Cass, car elle lui rappelle de l'épisode brutal de la mort de son frère qui lui a transformé un monstre. En aidant la figure de pouvoir par l'apparence, Cass possède cette vulnérabilité mentale qui lui oblige de voiler son cœur au reste du monde. Sa jambe paralysée est le résultat mineur du catastrophe qu'il a vécu et le trauma psychologique qui n'est pas percevable par apparence est la vraie conséquence de cette expérience traumatisante. Les images vicieuses qui réapparaissent dans son esprit sans cesse ont reformulé sa nature en lui transformant un individu cruel et monstrueux qui semble ne pas avoir empathie pour les autres. À la fin de Crooked Kingdom, Cass essaie de se guérir par enlever les gants et retrouver confort dans la douche. La duologie Six of Crows expose que les criminels, les minorités et surtout les révoltants sont des gens mentalement blessés ou détruits. Le lecteur va avoir compassion pour Cass qui était décrit comme un monstre au début, car il est aussi une victime de la violence du monde. À la fin, pour venger P.K. Rowling, qui a résulté à la mort de Jordi, Cass décide de transporter ce trauma et toutes les angoisses liées à une mémoire hantée à lui. À cause des menaces exagérées, P.K. Rowling va vivre dans la redoute comme une personne rejetée par la société. But it was more than that. Breaker had gotten into his head. P.K. couldn't stop thinking of his boy, his perfect boy, buried beneath claws of earth, screaming for him, pleading for his father, and P.K. unable to come to his rescue. Sometimes his son was crying from somewhere in the fields, but he didn't know where to dig. Sometimes P.K. was the one lying in the grave, paralyzed from as the earth was piled on top of him, like at first a pattern of rain. Then a heavy cloud that filled his mouth and stole the breath from his chest. Bien que Cass n'a point fait du mal au fils de Rowling, il a réussi à transmettre cette image et le sentiment d'angoisse extrême dans sa mentalité. Et ce trauma va toujours lui suivre. La vengeance dans Six of Crows ne consiste pas seulement à bouleverser l'hiérarchisation sociale pour que le camp puisse acquérir une condition de vie plus aisée, mais aussi de guérir les groupes minoritaires du trauma et de passer ce trauma aux individus qui ont fait du tort. Une partie essentielle du développement des personnages de Bardugo est leur amitié, qui est aussi un thème récurrent dans le genre de jeunes adultes. L'amitié principale représente dans le texte est expliquée méthodiquement à travers leur confrontation individuelle avec trauma et le manque d'environnement de famille stable et fondamental pour cela, qui est un problème commun avec le protagoniste. Nous pouvons faire une association avec le topoi dans les textes de LGBTQ+, qui met en scène des familles de choix. Le trauma de perdre sa famille et la façon que la famille retrouvée fonctionne dans le texte. L'expectation d'une famille est inversée par plusieurs façons dans ce texte. Il n'existe pas un exemple durant une famille nucléaire, c'est-à-dire mère, père et deux enfants, pour tous les personnages. Cass quitte ses parents et perd son frère, et il est toujours sous l'impact de l'événement de la mort de son frère. Il est une partie du camp, mais il est encore séparé de ses membres. Cass knew the moment Cass entered the SLAT, per Haskell's favorite lieutenant was home. Inej réfère au SLAT comme sa maison, mais il est clair que Cass possède une résidence différente que la plupart des membres dans le club. Cela est essentiellement la maison selon la version de Cass, un endroit où il est aussi considéré comme un lieutenant. Il est incapable de se reposer car il est toujours sur ses gardes dans sa propre maison. Quand Cass et les autres sauve Mathilde et Hellgate, il dit « Hellgate will have been paradise to me as a child », même si Hellgate est une prison brutale. Bardugo continue à fournir des évidences très amples pour le déplacement de Cass d'une vraie maison dans la façon qu'il interagit avec Jasper. Le début de texte expose l'excitation de Cass envers Jasper, quelqu'un qui partage la maison de Cass dans le SLAT, même s'il finit par faire confiance à lui après qu'il a torturé le traître Big Bolliger. Cass pense qu'il could have told Jasper that he knew he wasn't third, reminded him that he trusted him enough to make him his only real second in a fight, même s'il n'en est pas. À ce point dans le texte, Cass tient encore son gant à distance, incapable de permettre lui-même à trouver une autre famille. Les interactions entre Cass et Jasper sont réminiscentes de la façon que Cass interagit avec Jordi dans les retours en arrière. Quand il trouve que Hedson leur a escroqué qu'il est parti, Jordi garde cette information à lui-même. Il se met un masque pour que Cass puisse être optimiste de leur situation, qui est exactement ce que Cass fait constamment pour Jasper. Il garde ses secrets, comme la connaissance de la trahison de Big Bolliger, pour protéger son gang. Il est aussi intéressant de marquer que les prénoms de Jasper et Jordi commencent tous par un G. Cela est une pièce d'évidence que Bardugo place manifestement les caractères comme une nouvelle famille que Cass va créer. Le manque de famille pour les protagonistes est consistant. D'autre part, Bardugo met en relief le modèle d'amitié homosociale entre Nina et Inej, qui deviennent très amicales au cours de la première tome. Bardugo joue avec l'idée d'autonomie tout au long du texte, et surtout avec Nina et Inej. Quand leur relation peut être simplifiée à un modèle homosocial que plusieurs auteurs emploient, il existe aussi des expériences profondes partagées concernant leur liberté et la liberté de leur peuple, qui les réunissent ensemble. Inej et Nina ne sont pas les Six of Crows équivalentes à femmes blanches, mais elles sont persécutées pour leur religion et race. Elles sont aussi ouvertement sexualisées par Tante Alien et elles réacquérissent leurs droits de sexualité après avoir libéré du statut de propriété. Inej et Nina ne sont pas nécessairement des personnages sentimentaux et elles ne dépendent pas à la douceur du genre pour exister dans l'intrigue du texte. Bardugo permet leur amitié s'élever grâce au respect mutuel et la compréhension résultée de leur propre passé. Inej et Nina s'entraident pour sortir de leur trauma dans une façon différente que d'autres personnages peuvent atteindre. Cela est ce que transforme leur amitié genrée à une relation unique. Et je vais conclure à Gostudan. Pour conclure, Bardugo cherche à revendiquer à travers son roman des jeunes adultes qui évoquent des sujets sensibles et les détournant par le genre de roman fantasy. Cette œuvre possède simultanément une dimension de divertissement et un aspect militant. Il est impossible de négliger l'ambition de Bardugo de nous appeler à l'action contre les injustices du monde et l'hiérarchisation sociale. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Sam. Vraiment très intéressant. J'ai hâte qu'on puisse déjà discuter des parallèles qu'il y a eu entre les deux premières présentations. On va passer tout de suite à la troisième. Donc, je vais présenter Emmanuelle Lescouet, qui est candidate au doctorat au département de littérature de langue française à l'Université de Montréal, sous la direction de Marcello Vitale Rosati. Son projet s'intéresse aux gestes en lecture, de lecture, en environnement numérique, à la lecture de fiction et particulièrement à l'immersion. Elle travaille au sein de la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques et coordonne le répertoire des écritures numériques au sein du projet de recherche littérature québécoise mobile. Ses recherches s'intéressent à la lecture, notamment aux questions d'immersion ainsi qu'aux cultures de l'imaginaire. Donc, Emmanuelle va nous présenter aujourd'hui sa communication intitulée « Penser le savoir en commun, communauté universitaire ». Donc, je vous laisse la parole, Emmanuelle.
Merci beaucoup. J'essaie de faire vite puisqu'on est déjà en dehors du temps, mais... Donc, on va passer sur l'introduction tout de suite, ça, on va essayer de rattraper un peu de temps. La construction d'un univers second repose en grande partie sur sa définition et son exposition au lecteur ou à la lectrice. La compréhension de l'univers est importante pour l'immersion dans le texte. Si la xéno-encyclopédie, introduite par Richard Saint-Gelais, est primordiale en science-fiction, comme le rappelle Irène Langlais en 2006, ses équivalents existent pour la fantasy. Comme l'explique Anne Besson, je vous ai mis la citation à l'écran. Or, la construction de l'univers repose sur des règles, comme un terrain de ludique. Cette vision de la littérature de genre est discutable, mais pour les univers ludiques, l'existence de règles claires sont un atout non négligeable pour sa compréhension. Il devient alors plus simple de savoir si les personnages jouent ou se comportent selon les règles exposées, et qu'est-ce qui va bien pouvoir leur arriver. Pour que ce savoir soit exposé, il doit avoir une épaisseur diégétique. Les personnages doivent le connaître en amont et donc l'avoir découvert en premier lieu. Or, la connaissance ne naît jamais, même dans les univers les plus éloignés des nôtres, d'un individu isolé. Dans ce sens même, il est l'expression d'une communauté et d'un travail commun, voire public. Nous y reviendrons. Comme le collectif, reconstruire l'université a pu le démontrer, depuis 2012. On y reviendra également. La place du savoir et de sa circulation sera mon objet aujourd'hui. Les univers de l'imaginaire, et principalement les univers de fantasy, gèrent et représentent le savoir. Nous verrons que les problématiques d'ouverture de ce dernier, de son accès, de sa conservation et de sa valorisation sont au cœur de ses réflexions, mais également que les discours ainsi portés sur les institutions, notamment académiques, sont lourds de sens pour nos économies du savoir, notamment universitaires. Ce qu'Anne Besson a pu démontrer dans Les pouvoirs de l'enchantement, paru en 2021, ou ce qui était évoqué et démontré dans Why We Need Dragons de Daniel Baker en 2012. Je vais m'intéresser à quelques exemples au sein d'un corpus très très large. Je retiendrai ainsi quelques exemples. Discworld de Terry Pratchett, paru entre 1983 et 2015, les ouvrages pseudo-scientifiques de la série Dragonologie du professeur Herbes Drake, nom de plume de Dugald Stier, paru à partir de 2003, La Scolomance de Naomi Novik, qui est une série en cours, parue depuis 2020, et j'aborderai rapidement quelques exemples issus de la série de Lady Trent, parue en 2013 et 2015. Finalement, j'utiliserai The Bet Royals de Bridget Collins, paru en 2021 comme contrepoint. Je vous ai mis les couvertures. Comme vous pouvez les apercevoir, ils sont tous derrière. Je ferai évidemment de la programmation du colloque, référence aux chroniques du Pays des Mers d'Elisabeth von Harbour, notamment suite aux réflexions menées lors du colloque Histoire et littérature de l'imaginaire au printemps dernier. Nous aurions bien sûr pu nous attarder sur des exemples de littérature plus jeunesse, comme Die Stadt der Träumen Bücher de Walter Morse ou la série Tale of Magic, Tale of Sorcery and Tale of Witchcraft de Chris Colbert, où la recherche et la nécessité de comprendre les enjeux et conséquences de la magie est une question de survie, de vie ou de mort au sens propre pour les protagonistes. Nous pourrions nous arrêter sur les épisodes de recherche présents dans de nombreux ouvrages, mais pour le bien de la concision de cette démonstration, nous nous limiterons un peu. Il est toutefois remarquable que les exemples soient si nombreux, mais aussi si divers. Les communautés de savants étant un trope très présent en littérature de l'imaginaire et notamment en fantasy. Nous ne ferons bien sûr ici qu'effleurer les chasses de ce corpus. La School Fantasy, quant à elle, son exploration des écoles et de la transmission du savoir, a explosé dans les textes contemporains et représente une part non négligeable de la production pour la jeunesse et pour Young Adult. Cependant, avant d'enseigner, les connaissances doivent être produites, circulées et être validées par la communauté. Elles doivent pouvoir être considérées comme vraies. Bien sûr, je vais aujourd'hui m'intéresser aux communautés ainsi créées. Dans un premier temps, la production du savoir, comment la création de nouvelles connaissances est représentée, dans ce genre souvent qualifié de combattant. Puis sur la sauvegarde de savoir menant à la conservation et finalement à sa circulation et à son enseignement. Le savoir, pour pouvoir passer d'un individu à l'autre ou simplement être retenu, doit être inscrit quelque part. Il doit avoir une matérialité, quelle qu'elle soit. La question du texte et donc de la figure du livre au sens de Bertrand Gervais nous accompagneront tout au long de notre réflexion. Dans un souci de concision, toutes les citations sont affichées à l'écran plutôt que d'être lues extensivement. Je vous fais confiance pour vous y référer. Si le savoir se rassemble dans un lieu particulier, les travailleurs et travailleuses du savoir tendent à s'y rassembler également. Le lieu, le décor de la bibliothèque, vient jouer. Voici le décor de la bibliothèque, vient jouer dans la définition de ces communautés, mais n'y sont pas le seul élément. Ces communautés reposent sur des valeurs et des liens plus larges à la société et son inclusion en elle, en marge d'elle. La diversité des usages du savoir prend leur poids à ce point de la conversation. La communauté universitaire créée peut tendre vers un académisme ludique où la société universitaire fonctionne sur elle-même comme une bulle ou s'ouvrir sur l'extérieur, sur la société au sens large, que ce soit volontaire ou non. Comme a pu le démontrer Roland Le Houx, les lois des univers secondes demandent à être exposées pour que l'univers puisse être cohérent pour le lecteur ou la lectrice. De notre corpus, nous pourrions évoquer le travail de Lise Bailly dans Chronique du Pays des Mers, ce que nous discutions au colloque évoqué précédemment. Lorsque la magie est impliquée, elle devient un élément structurant de l'expérience, comme la science peut l'être pour un récit de science. Or, tout cela peut s'expérimenter en dehors des salles d'études. La magie parcourt ses univers librement et demande aux animaux fantastiques de vivre à l'air libre. Aller sur le terrain est alors le meilleur moyen de ramener des données exploitables pour comprendre le monde. On s'approche des protocoles des sciences expérimentales ou biologiques. Ceux et celles qui sont sur le terrain et celles et ceux qui travaillent sur les données, le tout fonctionnant en réseau. La communication étant alors fondamentale pour produire un savoir de valeur et pour le valider. La figure de l'éthologue est certes deux chercheurs les plus populaires de la culture pop, d'Indiana Jones à Lara Croft, ce sont des incarnations discutables mais populaires. La fantasy en présente des équivalents. Ernest Drake ou Lady Trent en sont les, dans leurs séries respectives, en sont des incarnations. Il et elle parcourent le monde pour comprendre les diverses espèces de monstres et de dragons qui les habitent. Une fois sur le terrain, les protocoles de recherche présentés sont proches de ceux des humanistes. Prise de notes de terrain sur divers sujets, dans l'espoir de documenter l'intégralité des données disponibles. Ces notes sont ensuite processées et partagées, notamment par la voie postale, dans des sociétés savantes, notamment la Société ancienne et secrète de dragonologie, dont vous avez le logo à l'écran. Ainsi, les romans de la série Ernest Drake se concentrent sur ces échanges, permettant de ponctuer ses missions sur le terrain et de déterminer ses prochains objectifs. Ce sont ensemble, et souvent en opposition, que les chercheurs et chercheuses parviennent à faire avant la connaissance dans ces romans. Le savoir peut également passer par l'expérimentation physique des disciplines. Qu'elle soit magique ou hybride, donc, le corps savant est exposé en première ligne pour sentir au premier chef les effets des conséquences de ces disciplines. Ainsi, les mages du Discworld sont souvent pris dans leur sort, souvent de façon assez malencontreuse, alors que les étudiants et étudiantes de la scolomance sont aux prises avec leurs doigts, risquant à tout instant de les voir exploser sous leurs doigts ou de se faire dire s'ils tardent à les terminer ou font des erreurs. Ce savoir incarné pose le chercheur ou la chercheuse dans une position risquée, mais excitante. Ce sont des héros faisant face aux dangers pour dégager de nouveaux savoirs, ou en retrouver d'anciens, dans un cadre de quête proche des objectifs des épopées d'heroic fantasy, comme décrit par Anne Besson notamment. Cette recherche de savoir le place dans un but désirable, un objectif ayant suffisamment de valeur pour mettre la vie des protagonistes en jeu. C'est donc précieux trésor à aller dénicher. Cette approche est très améliorative pour les professions intellectuelles présentées. Ce sont des savants presque exhaustifs, et s'ils sont marginaux ou marginales, ce sont des personnes précieuses reconnues dans leur cercle. Ainsi, Ernest Drake reçoit les honneurs pour ses publications, jusqu'à des remerciements personnels de la reine d'Angleterre, de son univers. Les mages de Mancing University, quant à eux, seront remerciés par les pouvoirs gouvernants en Porpoc lorsqu'ils parviennent à conjurer un mauvais sort, communiquer avec Dieu ou simplement ne pas faire exploser la ville lors d'une expérience malencontreuse. L'héroïne de A Deadly Education, quant à elle, est la sauveuse de toute une génération de sorciers et de sorcières parce qu'elle parvient à interpréter correctement les textes anciens et à monter une équipe multidisciplinaire compétente. Donner une matérialité à l'expérience de recherche est primordial pour sa conservation. Si cela mène à une forte polytextualité des œuvres, notamment comme notamment décrit par Hélène Langlais, incluant des notes de terrain, des articles, des documents iconographiques, entre autres, cette dernière vient écrire en mimétique de la polytextualité des sources et des travaux convoqués dans l'écriture scientifique réelle. Comme souvent, et comme nous pouvons l'affirmer à la suite de Janet Murray, la mimétique formelle participe de l'immersion lectoriale. Reconnaître les codes du texte présenté lui donne une épaisseur, une crédibilité plus forte, l'inscrivant comme vrai, comme crédible dans l'univers fictif. Cette matérialité diverge selon les univers. Si les notes d'Ernest Drake ou de Lady Trent sont des notes sur de précieux pieds et carnets à couverture de cuir, le savoir bibliothécaire de la Passe-Miroir, par exemple, de Christelle Dabos, notamment le tome 3, la bibliothèque de Babel, ont des microfilms et des livres plus usuels pour nous. Ces supports s'inscrivent dans la culture particulière de ces environnements, correspondant aux technologies disponibles. Plus les environnements seront avancés, plus les technologies du savoir le seront. La mimétique des technologies de notre monde sont facilement réplicables, mais impliquent une compréhension de ces architectures, et notamment des architectures de mémoire, comme par Jean-Marie Dallet et Bertrand Jarret dans leur ouvrage éponyme. Si le savoir existe dans une forme d'inscription, de trace de la pensée, et nous rejoignons ici la question des traces et de leurs études, notamment menées par Louise Merzeau, il va tendre à être rassemblé dans des espaces physiques ou numériques, simplifiant son accès. Si la forme la plus répandue peut s'affilier à des bibliothèques, comme nous les connaissons, ce sont des lieux qui gravitent naturellement vers les twists narratifs. Le savoir contenu devient la pierre angulaire de la quête des personnages, leur permettant de résoudre les situations. Elles peuvent s'entrecompter, comme Mancing University, mais aussi servir de guide et d'informateur, comme dans A Deadly Education. Dans cette dernière, l'école Académie est capable elle-même de soumettre les textes qu'elle pense pertinents pour les étudiants et étudiantes, de leur assigner certaines langues, de leur offrir des sorts particuliers généralement issus de bibliothèques privées, mais oubliées. Ces emprunts étant le meilleur moyen de faire circuler la connaissance de ce monde. Et elles s'emploient tous et toutes à les apprendre, à les traduire, pour en faire le meilleur usage possible face aux monstres qui les assaillent et aux problèmes du monde futur auxquels elles seront confrontées. Le fait que le savoir en lui-même puisse mener à des lieux conscients, ou du moins prêts à être utiles par eux-mêmes, permet une multitude d'intrigues. Nous y reviendrons évidemment en évoquant les cas plus précis de notre corpus. Ces écritures permettent également des recherches secondes, qui nous sont familières en sciences humaines, en littérature notamment. L'étude de textes, notamment de Grimoire, et je vous renvoie sur la question aux études d'Owen Davies, si le monde fictif est effectivement régi par la magie, la comprendre est nécessaire. La comprendre par les hérités du passé est souvent le meilleur moyen d'y parvenir. Les notes de recherche et les explorations de terrain deviennent alors le meilleur moyen de comprendre en détail ce qui a pu être observé, de recouper les sources et de parvenir à de nouvelles connaissances. Nous pourrons citer les travaux phylogénétiques de Lisbey dans les chroniques du Pays d'Arc lorsqu'elle est confrontée au carnet de Hald et des travaux de documentation montés entre les lignes. Cette production de savoir second peut être illustrée par la scolomance. Les étudiants et étudiantes ne sortant pas de l'école de toute leur adolescence jusqu'à ce qu'on pourrait considérer l'obtention d'un doctorat par le meurtre répété de monstres, ils n'ont pas d'expérience autre que celle prodiguée à l'intérieur des murs de l'institution. Or, celle-ci est majoritairement obtenue à partir des textes que l'institution elle-même leur confie. Ce sont ces textes qui vont permettre aux protagonistes de comprendre comment se sortir de cette école infestée de monstres et avoir une chance de construire un monde plus durable, socialement, globalement et ensemble. Ce sont également les textes et les traces des performances précédentes conservées précieusement qui permettent aux académiciens et académiciennes de The Betrayals de créer leur composition, rêvant d'incarner la puissance esthétique parfaite par la fusion de toutes les sciences, des mathématiques à la philosophie, en passant par la musique et la composition littéraire. Le tout en espérant recomposer le monde fictif à l'étude. Ce sont les et les partitions qui ont permis de faire se rencontrer toutes les disciplines qui, ensemble, leur permettent de créer ce grand jeu si particulier. Pendant Parfait, des recherches de Damien Huyg, exposées dans son ouvrage Contre-temps de la recherche et de ses enjeux en art, en architecture et en design. Pour que ces découvertes soient possibles, il est impératif que la matière première soit accessible. Il faut que les textes ou inscriptions puissent être consultés et prises et comprises pour que leur synthèse puisse avoir du sens. L'accès lui-même est un enjeu. Pensons au tome 3 des chroniques du Discworld. Les sorcières, ou plus généralement les femmes, n'ayant pas accès à l'Unseen University, mais nombre d'histoires prennent leur source dans l'incompréhension ou dans la maîtrise par un petit groupe du savoir. Ce qui nous ramène aux enjeux et sexistes de l'institution, mais encore plus aux questions sociales et hiérarchiques qu'elle pose. Dans The Betrayals, que j'évoquais à l'instant, plus encore que le sexisme, présent également, l'accès est rendu complexe par la rareté des documents. Ce sont des notes manuscrites des grands maîtres de la discipline, accessibles uniquement en personne et sur autorisation. L'absence de copie et la centralisation deviennent des enjeux prégnants de ces recherches. L'ouverture des lieux de connaissance est toujours présentée comme une nécessité. Nous l'avons vu. C'est de là que sort la solution aux embûches du récit, mais surtout, c'est là que se trouvent toutes les réponses à l'univers et à l'existence. Cette approche de ce que nous appellerions aujourd'hui l'open science est passionnante. C'est le conservatisme du genre, décrit assez brillamment par Anne Besson dans ses 50 questions sur la fantaisie, n'empêche pas l'univers d'être de grands admirateurs du savoir, et notamment du savoir humaniste. Cet aspect encyclopédique est romantisé, de la figure de l'érudit et de la figure du scribe, de l'interprète, pour reprendre les figures lectoriales de Bertrand Gervais, sont fondamentales. Quant à lui, le museur, celui qui lit et apprend pour le plaisir, pour se perdre dans le texte, et les explorer pour assouvir un plaisir de flânerie, n'est présent que marginalement. Ce plaisir est incarné donc que par bulles d'enthousiasme frénétique, poussant à perdre pied et à plonger dans les connaissances jusqu'à oublier le monde réel. Seule la communauté, alors, sauve les savants de la folie. Prenons l'exemple du Discworld de Terry Pratchett et de The Betrayals. L'Unseen University est un élément de la ville d'Ankh-Morpork. Les mages constituent une communauté, comme l'Académie l'est pour le monde du grand jeu. Ce sont des lieux de prestige dont l'entrée est réglementée et demande le passage d'examens stricts et parfois un peu absurdes. Les communautés de recherche constituées sont très similaires à ce que nous pouvons connaître. Les postes sont rares et font entrer les enseignants et enseignantes dans une compétition des mécaniques de complot et d'arrangement qui peuvent mener à la domination de certaines disciplines et à certaines responsabilités. Les moyens et principaux des chaires de ces universités ont une véritable importance dans les décisions publiques au-delà de leurs espaces académiques, mais leur excentricité, leur rapport à la magie, les place souvent dans une position marginale. Leur jeu avec le savoir et leur capacité à faire des erreurs viennent enrichir cette position d'adulte-enfant vivant pour le plaisir dans une position utile pour la société au sens large. Les doctorants ou leur équivalent magique de chercheurs juniors sont dans des positions proches des nôtres. L'apprentissage est encore en cours, mais la volonté d'appartenir au groupe et de participer, voire de faire évoluer la communauté, est forte. Je reviendrai ici encore au collectif Reconstruire l'université lorsque les rapports de pouvoir s'enchaînent et se placent en embuscade du parcours des protagonistes. Ces universités sont des lieux de savoir au sens propre, gravitant entre salles de classe et bibliothèques. Les campus étant des lieux de vie où les idées sont brassées et expérimentées dans les normes autorisées par les hiérarchies. Mais en The Betrayals, lorsque le gouvernement flanche et décide d'ouvrir les murs de l'université du grand jeu, de faire sortir les professeurs pour les réintégrer dans le corps social, la catastrophe guette. L'ouverture et la tolérance a pu se développer au sein de l'institution, bien que rigide.
C'est bien ébranler les avancées électorales et passer le prisme de l'opinion publique. Les horreurs qui peuvent être retenues entre les murs sortent au grand jour. En faisant sortir les chercheurs, ils font également sortir leurs archives, leurs notes et leur savoir historique, même le plus déplaisant. Même si le savoir est la profession de quelques-uns et de quelques-unes, ils sont alors celles et ceux en position d'éclairer les situations et de guider les protagonistes, comme nous l'avons vu. Cependant, le fait que certains et certaines seulement soient en mesure d'accéder au savoir pose question. Les exemples de détournement de ce savoir sont nombreux, nous pouvons ici retenir l'importance de la compréhension de la vie de garde dans le pays des mères, l'ensemble des valeurs et des religions du monde étant fruit autour d'elle et de l'enseignement. Les découvertes sont donc surveillées de très près, causant toutes sortes de troubles. Dans d'autres séries, comme la Passe-Miroir, le fait que le savoir ne soit maîtrisé que par une infime partie de la population, très fortement hiérarchisée elle encore, empêche l'histoire réelle d'être connue dans la société au sens large, menant à une profonde incompréhension du passé et à la reproduction d'erreurs déjà survenues. Le tout menant à des discriminations aberrantes. Ces découvertes peuvent venir donc bouleverser les univers présentés. Si, dans les chroniques, l'exemple est évident, la religion peut faire s'effondrer le système politique. C'est en tout cas le cas dans les volumes d'Ernest Drake. La connaissance de l'existence de monstres et de dragons au sein de l'Angleterre peut renverser la royauté et menace la reine. Comme promis en introduction, je me suis tenue éloignée des corpus de school fantasy et plus largement de la tonde de l'enseignement. Je souhaite ainsi m'intéresser à la production du savoir en amont de la salle de classe, en quelque sorte. Cependant, une fois tout ce savoir existant, nous avons pu apercevoir au cours de cet exposé qu'il repose sur une ouverture et sur son dévoilement, laissant ainsi la place à des décisions plus objectives ou à des déplacements des enjeux de pouvoir. La nécessité de compréhension du monde dans lequel les protagonistes évoluent est un point fondamental dans l'approche de ces enseignements intradiégétiques. La mise en lumière de cette importance nous pousse à évoquer les questionnements de et dynamiques de la science ouverte et de l'open data, notamment à destination des étudiants et des écoles, mais aussi de pousser la question de l'accès plus large, plus social, à ces connaissances produites par l'introduction de points d'accès, de bibliothèques, de répertoires, d'académies, d'universités, etc., à ce savoir, comme le rappelle le collectif Reconstruire l'université. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère ne pas avoir trop débordé de mon temps. Merci.
Merci vraiment à tout le monde d'avoir été là pour ce deuxième panel sur, mon Dieu, tous ces sujets-là. Ça a mis beaucoup de réflexions sur la table. Donc, je vous mets le lien Zoom de la table ronde dans le chat si vous ne l'avez pas déjà. On vous invite grandement à nous suivre dans l'autre Zoom pour une table ronde avec des auteurs, des autrices. Et sinon, on se voit demain 9h, heure de Montréal, pour une autre table ronde et ensuite 11h, heure de Montréal, pour un panel. Donc, merci beaucoup et plaisir de vous revoir dans un autre Zoom.
Merci.
Merci.
Merci à tous.